l'écoute de RFI. 21h ici à Paris, 19h en temps universel. Et Clotilde Dumay à mes côtés dans 10 minutes son décryptage. Elle répondra à cette question. Pourquoi le prix de l'or atteint-il des records? Mais d'abord le journal. Bonsoir Clotilde.
Bonsoir Romain, bonsoir à tous. Dans ce journal, les Canadiens qui votent en ce moment aux élections législatives, encore une fois marqués par les derniers propos de Donald Trump. Il réitère sa volonté de faire du pays le 51e État américain. Un témoignage dans un instant d'un Canadien qui compte bien passer au-delà de ses menaces. À suivre aussi des témoignages de Madrilène qui viennent de vivre une journée très étrange, l'Espagne est d'un péninsule ibérique perturbée par une gigantesque panne d'électricité qui met à l'arrêt les transports et les communications. L'électricité n'a été rétablie qu'à 20% en Espagne continentale pour le moment. Et puis le chef de la diplomatie américaine dit à son homologue russe qu'il est temps de mettre fin à une guerre insensée en Ukraine. Le président français assure que la pression va s'accroître sur Moscou dans les prochains jours pour parvenir à un cessez-le-feu. Moscou qui propose pour l'instant une trêve du 8 au 10 mai prochain. C'est donc décidément un scrutin qui se déroule dans l'ombre de Donald Trump. Alors que les Canadiens votent actuellement dans le cadre des élections législatives, le président des États-Unis évoque de nouveau aujourd'hui une éventuelle annexion du Canada, rappelant qu'il deviendrait le 51e État américain. Le candidat conservateur Pierre Poilievre lui répond en lui demandant de ne pas se mêler de ces élections. Pierre Poilievre qui fait face au candidat libéral, l'actuel Premier ministre Mark Carney, donné favori au terme d'une campagne marquée donc par cette relation compliquée entre Ottawa et Washington. Et même si à la sortie d'un bureau de vote, Régent, un retraité de 66 ans, assure ne pas s'être décidé uniquement en fonction des attaques de Donald Trump.
Ben disons, c'est sûr qu'on a toujours le côté US qui nous traîne en arrière de la tête, mais c'est surtout la question de la santé mentale et tout. C'était une des priorités que j'avais pour moi, la santé. Et puis comme des raisons, les habitations, on manque d'habitations, là. Il y a beaucoup de gens qui sont dans la rue. Et puis c'est important ça aussi.
Ça a compté pour vous, plus que le contexte international?
Je crois que oui. Parce que je veux dire, pour qu'on soit, il faut qu'on soit bien chez nous pour commencer, là. Je pense que c'est important qu'on prenne soin de nous-mêmes. En premier lieu.
Vous regrettez qu'on ait parlé autant de Donald Trump pendant cette campagne?
Ah oui, ça c'est sûr et certain, mais qu'est-ce qu'on veut? C'est quand même quelque chose qui est assez gros aussi, là. C'est normal que ça sorte dans les médias, qu'on en parle tout le temps, là. On connaît Trump, hein? On n'a pas besoin de dire vraiment grand-chose, et on le connaît.
Et ça vous inquiète, vous, ces attaques?
Non, le Canada est fort. Je crois qu'on va s'en sortir, et puis on est reconnu pour des gens trop polis, hein? Alors c'est vrai qu'on est trop polis, mais je crois qu'à un moment donné, les gens vont dire, bon, OK, c'est assez la politesse, et puis... On passe à l'action. J'ai confiance.
Un témoignage recueilli par Marine de la Moissonnière. Les derniers bureaux de vote fermeront à 19h, heure locale côté Pacifique. Ce sera dans la nuit à 2h en temps universel. L'électricité rétablie à 20% ce soir en Espagne continentale depuis la mi-journée. Une gigantesque coupure de courant paralyse le pays et son voisin portugais. Le premier ministre espagnol a dit espérer un retour rapide de l'électricité tout en précisant ne pas avoir pour l'instant d'informations concluante sur les causes de cette coupure qui a mis à l'arrêt les transports et les communications, obligeant de nombreuses personnes à rentrer chez elles à pied à Madrid. Ambiance étrange et chaotique décrite par Diane Cambon.
D'un seul coup, tout s'est arrêté vers midi en Espagne. Le courant s'est affaibli peu à peu, puis plus rien. La communication par Internet va et vient, tout comme le réseau téléphonique. Dans les rues de Madrid, les commerçants baissent leurs rideaux de fer.
On est en train de fermer car on ne peut plus rien vendre. Plus aucune machine ne marche. On est dans l'attente et on ne sait rien.
Dans les rues de la capitale, on se demande aussi comment on va regagner sa maison car plus aucun moyen de transport électrique comme les trains ou le métro ne fonctionne.
Je ne sais pas si mon train va circuler. Je suis très effrayée car là, il vient de se passer quelque chose de très grave. Je pense qu'on va nous bombarder.
Sans communication ni information sur les raisons de cette immense coupure d'électricité, les explications vont bon train et avec humour et une certaine crainte.
Je pense que c'est une immense intempérie solaire.
Moi, je crois que ce sont les extraterrestres.
Je préfère ne pas trop penser aux conséquences, car si cela dure, cela va être compliqué, car on est tellement dépendant au jour le jour.
Le gouvernement espagnol n'écarte pas la possibilité d'une cyberattaque et mène une course contre la montre pour rétablir le réseau. Diane Cambon à Madrid pour RFI.
La région de Madrid où d'après les autorités, les secours ont effectué 286 opérations pour venir en aide aux personnes coincées à l'intérieur des ascenseurs. Cette panne d'électricité a aussi brièvement concerné le Pays Basque français et le Maroc rapporte également des perturbations sur le réseau Internet. Les 15 prochains jours vont être clés pour essayer de mettre en œuvre le cessez-le-feu en Ukraine. Voilà ce qu'indique le président français dans un entretien publié par le magazine Paris Match. Emmanuel Macron assure que la pression va s'accroître sur la Russie dans les 8 à 10 jours. Il assure avoir parlé à son homologue américain pour l'inciter à adopter une ligne plus ferme avec Moscou. En attendant, le président russe a lui annoncé une trêve de 3 jours entre les 8 et 10 mai, à l'occasion des commémorations de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Proposition qui reste insuffisante, Daniel Valo, pour les Ukrainiens. Volodymyr Zelensky dénonce même ce soir une tentative de manipulation.
Vladimir Poutine avait déjà proposé une trêve au moment des fêtes de Pâques, trêve qui avait entraîné une accalmie toute relative sur la ligne de front. Cette fois, c'est l'anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale, célébré en grande pompe à Moscou le 9 mai, qui justifie l'annonce. Le cessez-le-feu doit débuter, précise le communiqué du Kremlin, le 7 mai à partir de minuit et s'arrêter 3 jours plus tard. Comme pour la trêve pascale, le Kremlin considère que l'Ukraine doit suivre l'exemple russe et que l'armée russe se réserve le droit de riposter à toute violation de la trêve. L'annonce a déjà été accueillie très froidement par Kiev. L'Ukraine adopte d'ailleurs la même position qu'au moment des fêtes de Pâques et demande, elle, un cessez-le-feu immédiat pour au moins 30 jours. L'annonce de la Russie intervient en tout cas à un moment que l'administration américaine a qualifié de crucial. C'est le mot utilisé par le secrétaire d'État Marco Rubio, qui espère très vite des progrès dans les négociations entamées avec la Russie.
Le chef de la diplomatie américaine qui s'est entretenu avec son homologue russe hier par téléphone et qui a demandé à Sergueï Lavrov de mettre fin à cette guerre insensée, selon les mots de la Maison Blanche. Le chef de la sécurité intérieure israélienne quittera ses fonctions le 15 juin, annonce de Ronen Bar après des semaines de tensions avec le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou qui a engagé une procédure pour le limoger. Israël qui poursuit par ailleurs ses frappes dans la bande de Gaza, au moins 40 morts aujourd'hui d'après la défense civile palestinienne. Et puis des frappes aussi au Liban, où l'État hébreu assure avoir visé en un mois plus de 50 cibles dites terroristes. Une information judiciaire pour meurtre avec préméditation et à raison de la race ou de la religion a été ouverte en France. 3 jours après l'attaque au couteau dans une mosquée du Gard dans le sud, un fidèle musulman d'origine malienne a été tué de plusieurs dizaines de coups de couteau vendredi dernier. L'assaillant de nationalité française s'est rendu hier soir dans un commissariat italien en Toscane. Il n'a rien dit contre l'islam ni contre les mosquées, selon son avocat italien. Toujours en France, 2 semaines après les mystérieuses attaques qui ont visé plusieurs prisons, 25 interpellations ont eu lieu ce lundi matin, Alexandra Cagnard, sur l'ensemble du territoire.
L'opération a débuté à l'aube de manière conjointe en région parisienne, à Marseille, Lyon et Bordeaux. Elle est le résultat d'investigations menées ces 15 derniers jours par près de 200 enquêteurs et elle a donc conduit à 25 arrestations. 5 des personnes interpellées étaient en détention, toutes ont été placées en garde à vue. Le parquet national antiterroriste qui est chargé de l'enquête précise que depuis 2 semaines, la police scientifique a analysé 260 scellés et passé au crible 10 millions d'identifiants téléphoniques. Une quinzaine d'attaques ont eu lieu entre le 13 et le 21 avril dernier. Des véhicules appartenant à du personnel pénitentiaire ont été brûlés devant ou aux abords de plusieurs prisons. Des tirs d'armes automatiques ont aussi visé les portes d'établissements. Les domiciles de certains agents ont également été pris pour cible dans 2 départements jusqu'au 21 avril où des cocktails Molotov ont été lancés en direction de 2 maisons d'un lotissement de l'Isère où résident plusieurs agents pénitentiaires. Le PNAT indique que les faits sont susceptibles de s'inscrire dans la très grande criminalité organisée.
Les explications d'Alexandra Cagnard, il y aura sans doute d'autres interpellations, précise ce soir le ministre de la Justice Gérald Darmanin. On connaît la composition du jury du Festival de Cannes, on savait déjà qu'il serait présidé par Juliette Binoche. L'actrice française sera entourée de 4 autres femmes et 4 hommes, notamment l'écrivaine franco-marocaine Leila Slimani, le documentariste congolais Dieudo Hamadi ou encore l'actrice américaine Alea Berry. Le jury devra départager les 21 films retenus en compétition, notamment celui des frères Dardenne ou bien du réalisateur américain Wes Anderson. Le Festival de Cannes se déroulera du 13 au 24 mai prochain. En attendant, ce soir en France, c'est le théâtre qui est mis à l'honneur, 36e nuit des Molières, alors que la CGT Spectacle dénonce les coupes budgétaires drastiques dans le secteur de la culture. Il est 21h10 à Paris, la suite sur RFI, c'est Décryptage.